salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, les chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Canu, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi. Alors ce soir, vous allez l'entendre, je suis toujours aussi enrhumée. Vous m'excuserez donc si d'un seul coup il y a un grand silence au milieu de mes phrases. Alors on va parler un petit peu en bref de la Grèce, d'Israël, de la Birmanie par exemple. On parlera un petit peu de la France aussi, on parlera des fachos. Nous reviendrons assez brièvement sur le procès de la Scientologie en Belgique. Nous parlerons des complotistes, nous ferons un petit tour par le Figaro Magazine ce soir, oui. Nous parlerons ni Dieu ni Maître, on parlera de la grève des journalistes reporters d'Image de France 2, on parlera du vélo et puis peut-être encore plein d'autres choses, du G20, ce genre de choses.
Oui, on va ouvrir avec juste quelques petites
brèves. Si tu me permets, juste avant que tu ouvres avec tes brèves, 146 ou 151, c'est le nombre d'exécutions en Arabie Saoudite depuis le début de l'année. Alors, oui, je vous donne le chiffre chaque semaine, je sais, mais si vous nous suivez avec attention, vous remarquerez que le chiffre ne cesse d'augmenter très 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 vite. Et alors, vous allez me dire, pourquoi 146 ou 151? Ben parce que selon les ONG, on n'a pas tout à fait le même chiffre, parce que c'est pas bien facile non plus de savoir où on en est, puisque ces exécutions vont très très vite.
Alors, dans la série des brèves, un double attentat aujourd'hui à Beyrouth, au moins 16 morts en fin d'après-midi. On n'a pas plus d'infos que ça dans le sud, donc dans le sud de Beyrouth, c'est-à-dire les quartiers dans lesquels le Hezbollah est implanté. Une info sur la Grèce d'abord, en bref, puisque la Grèce est à l'arrêt complet suite à une grève générale lancée par la GSEE, la Confédération des travailleurs du secteur privé, et l'ADEDI, la Confédération des syndicats du public, contre le Premier ministre Alexis Tsipras, notamment sur les nouvelles demandes de baisse que veut mettre en place le gouvernement. Baisse des pensions, baisse des retraites, augmentation du départ, de l'âge de départ à la retraite à 67 ans, enfin toutes ces reculs sociales que met en place ce soi-disant ministre de gauche. Donc voilà, grève assez généralisée aujourd'hui en Grèce. Bon courage aux camarades grecs. On revient sur l'info de la semaine dernière sur les produits fabriqués dans les colonies israéliennes implantées notamment en Cisjordanie, puisque l'Europe a enfin pris une décision concernant l'étiquetage. Donc c'est juste une décision technique, nous dit l'Europe. Ça a énervé beaucoup Benjamin Netanyahu, qui, je cite, « cela nous rappelle des heures sombres. L'Europe doit avoir honte. Elle vient de prendre une décision immorale ». Bizarrement, il doit pas comprendre ce que veut dire le mot moral. En tout cas, au niveau moral et au niveau international, c'est bien Israël qui ne respecte pas les règles. On rappelle que l'accord de coopération avec l'Europe dit que Israël doit respecter les droits de l'homme. Or, Israël ne respecte pas les droits de l'homme ni quand il bombarde Gaza, ni quand il occupe la Cisjordanie. Si Benjamin Netanyahu avait du courage, de lui-même, il casserait cet accord de coopération, puisque l'Europe n'a pas le courage de casser cet accord, juste le courage de faire étiqueter des choses sur des produits fabriqués par des personnes colonisées. Encore une brève avec la Birmanie, puisque les généraux birmans ont pas attendu l'annonce officielle, qu'on n'a toujours pas, pour féliciter Aung San Suu Kyi, vous savez, cette opposante dite démocrate, mais néanmoins raciste, hein, parce qu'il faut quand même le dire qu'elle a été super limite sur les problèmes de pogrom. Hein, c'est un mot qu'on utilisait beaucoup en Pologne, en Russie, au début du XXe siècle, mais qui peut pas mal s'appliquer dans ce qui se passe contre les ethnies qui sont d'une religion différente à la majorité birmane, qui est plutôt bouddhiste, si j'ai bien tout compris, et donc qui s'attaque aux musulmans. Elle n'a jamais rien dit là-dessus, donc elle qui ne dit mot consent. Donc voilà, tout le monde se félicite de la victoire d'Aung San Suu Kyi, mais c'est pas si glorieux que ça, quand même, de faire gagner cette personne-là. C'est bien moins pire que les généraux et que la dictature précédente. Mais on n'est pas sûr que ça progresse si vite que ça en Birmanie. Et puis on terminera avec la France, dans ces petites brèves d'introduction, avec ce truc que l'extrême droite avait rêvé, que Sarkozy voulait faire, et finalement, ce seront sûrement les socialistes qui le feront, puisque Bernard Cazeneuve, le ministre très à droite de l'Intérieur, veut autoriser les policiers à tirer sans être en légitime défense. Je pense qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes et de moins jeunes tués par la police, donc ils vont essayer d'aider à faire disparaître une partie de la population, doit peut-être être trop nombreux en France. En tout cas, c'est un énorme recul pour les citoyens, les droits de l'homme et tout ce qu'on pourrait imaginer d'un peu progressiste en France. Et alors, la rubrique suivante fait un lien, on va dire, avec tout ça, puisque nous allons parler des fachos et quelques petites infos sur l'extrême droite, les extrêmes droites, puisqu'elles sont diverses malheureusement et trop variées. D'abord, on va aller à Trébrivent, c'est en Bretagne, un petit village qui compte 700 habitants. Parmi eux, un petit lot de nationalistes, fascistes, patriotes, vous les appelez comme vous voulez, qui sont prêts à défendre leur village contre toute invasion. Et oui, c'est de ça dont il est question, puisque le maire socialiste avait proposé d'accueillir quelques migrants, notamment une famille de Syriens, parce qu'ils ont un local, l'ancien logement de fonction de l'école, et donc il s'est proposé d'accueillir une famille, puisque ce local contient une cuisine et 4 chambres. Même un petit jardin. Vraisemblablement, les petits fachos bretons trouvent ça horrible que l'État, à travers les impôts prélevés chez les vrais Français, puissent financer l'installation de cette famille dans ce local municipal. Ils ont donc tagué la mairie, l'école, en disant avec des gros « non aux migrants, dehors ». Voilà, le racisme, le fascisme est bien présent en Bretagne aussi, malheureusement. Alors, toujours sur l'extrême droite française, avec Jean-Marie Le Pen, qui lance la théorie du complot, comme quoi dans ses arguments, dans sa guerre contre Florian Philippot, qu'il accuse de tout, notamment d'avoir manipulé sa fille, il dit qu'il y a un complot au sein du FN mené par la mafia des hétérophobes du FN. Voilà, bonne nouvelle, il y a une mafia des hétérophobes au FN, et ils ont pris le pouvoir contre les homophobes que pouvait être, comme le pouvait être Jean-Marie Le Pen. Il se défend comme il peut, le pauvre. Finalement, c'est pas très glorieux. Et dans la série, la famille est pas glorieuse du tout. On va parler de Marine Le Pen, toujours dans l'extrême droite, avec cette fameuse phrase qu'il faut éradiquer toute immigration bactérienne. Eh oui. Elle a vrillé une fois de plus. Hein, faut dire que bon, d'habitude, elle est contre l'immigration tout court. Là, elle est contre l'immigration bactérienne. De quoi s'agit-il? Elle reprend une théorie qu'elle avait déjà dit plusieurs fois, notamment en 2013, où elle avait dit qu'il y avait des cas de tuberculose multirésistante qui apparaissaient en France à cause des émigrés de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, elle laisse entendre que les flux migratoires trop importants, d'après elle, apportent des maladies contagieuses non européennes. C'est pas du tout les touristes hein, qui ramènent des maladies contagieuses. Elle doit pas être au courant un peu. Peut-être qu'elle est pas assez intelligente. Peut-être qu'elle se cultive pas assez. Peut-être qu'elle ne lit pas la littérature scientifique. Peut-être qu'elle ne comprend pas la littérature scientifique. En tout cas, les études montrent qu'effectivement, les maladies contagieuses qui étaient jusqu'à maintenant peu présentes en France arrivent pour différentes raisons. La principale, c'est les échanges internationaux, notamment le tourisme. Et le tourisme, les Français qui vont à l'étranger ramènent des maladies. Et oui. Les maladies transportées par les avions, donc les moustiques, tout ça. Et et le réchauffement climatique qui fait remonter des maladies dans le sud de la France pour l'instant, et peut-être après plus haut. Donc voilà, c'est de ça dont il devrait être question, et pas du tout de migrants qui ramènent pas plus de maladies que les touristes traditionnels. Donc vraisemblablement, elle veut fermer totalement le pays quand elle sera au pouvoir, donc mettre des murs très très hauts pour empêcher les avions de passer, fermer les aéroports. Alors écologiquement, on sera pas contre, mais bon, quand même, ça sera pas terrible. Voilà les idées qu'elle peut avoir. S'il y a encore des gens qui pensent voter pour elle, il faudra qu'ils lisent et qu'ils écoutent un peu les bêtises qu'elle peut débiter chaque seconde. Et puis une dernière info sur l'extrême droite avec une bonne nouvelle. C'est cela concerne Dieudonné, puisque il était devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors je vous rappelle les faits, c'est le 26 décembre 2008 au Zénith de Paris. Il avait fait un spectacle soi-disant humoristique où il invitait Robert Forisson, grand
humoriste.
Ouais. Alors à part faire rire Jean-Marie Le Pen, je suis pas sûr qu'il ait fait rire quelqu'un d'autre, Forisson. Il était donc arrivé, Forisson, qui est un grand révisionniste, grand négationniste. Voilà, dont les livres se trouvent assez régulièrement dans les meetings du Front National. Et donc Dieudonné l'avait invité pour le faire applaudir et lui remettre un prix, le prix de l'infréquentabilité. Oui, grosso modo, c'est assez infréquentable, hein, ceux qui nient l'assassinat des juifs par les nazis. Il l'avait fait remettre en plus par un acteur déguisé en déporté juif. Enfin, c'était d'un mauvais goût total. Le spectacle d'ailleurs était plus du tout drôle. Le dérapage avait été sanctionné par la justice française et une amende de 10 000 euros pour injure à caractère racial. Dieudonné s'était senti attaqué dans sa liberté d'expression. Et il s'était donc tourné vers la Cour européenne des droits de l'homme, qui est effectivement une instance qui défend bien la liberté d'expression. Et on a appris qu'elle lui a mis un coup de boule dans la tête. Alors c'est un coup de boule par écrit, c'est pas du tout physique. Mais donc la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il n'y a pas du tout d'atteinte à la liberté d'expression, puisque la soirée, je cite, avait perdu tout caractère de divertissement pour devenir un meeting qui, sous couvert de représentations humoristiques, valorisait le négationnisme. Les juges ont relevé donc une prise de position haineuse et antisémite, et ça ne mérite donc pas, disent-ils, d'être protégé par la liberté d'expression. C'est une assez bonne nouvelle.
Oui, surtout, moi j'ai aussi noté que la Cour a noté que tout ça était travesti sous l'apparence d'une production artistique. C'est-à-dire que elle parle même plus d'un spectacle. Elle parle d'un meeting politique dans lequel y a des choses horribles qui sont dites, et c'est ça qu'elle a pointé du doigt, en fait. Alors, on peut peut-être continuer avec la scientologie. Alors, il n'y a pas très longtemps, je vous disais qu'il y avait un grand procès qui se tenait en Belgique contre l'église de scientologie. L'organisation est poursuivie pour fraude, extorsion de fonds, pratique illégale de la médecine, organisation criminelle. Et que il y a 12 personnes qui sont poursuivies dans ce dossier, que certains c'est des chefs, donc en plus c'est bien, qu'il y a aussi 2 personnes morales, des entités, donc l'église de scientologie Belgique et puis l'église scientologique Europe. Et ce procès, il se tient un peu comme ça s'est passé en France, c'est-à-dire difficilement. C'est pas simple de faire venir des gens à la barre, c'est pas simple de confronter la scientologie. La scientologie a des pratiques et des méthodes dans la rue, j'allais dire, mais qu'elle porte aussi dans le tribunal. Elle agit exactement pareil. Et puis là, on a appris que le procès, va être suspendu, suite à des problèmes de santé du procureur fédéral, Christophe Caliman. Il a été hospitalisé, il a fait un malaise. Alors, il faut savoir quand même que ce procureur fédéral, ça fait 20 ans, depuis 1997, 2 décennies, qu'il est sur cette affaire, qu'il monte son dossier. Il se retrouve quand même un petit peu seul aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des victimes qui, au départ, l'avaient accompagné, puis finalement ont retiré leur plainte. Il y a les pressions de la scientologie. Donc tout ça, c'est très dur pour lui. À côté de ça, les avocats de la scientologie tentent de le discréditer en permanence. Il faut savoir que le jour de son malaise, il y a une association, oui, qui s'appelle SAFE, Scientologist Alliance for Freedom in Europe. Oui, oui.
Ah, c'est beau.
C'est beau, Alors c'est une des nombreuses filiales de la scientologie qui a porté plainte contre le procureur fédéral belge devant la représentante des Nations Unies pour la liberté religieuse. La scientologie donc dénonce un acharnement judiciaire et une violation des droits fondamentaux. Voilà, alors ça l'a fait peut-être un petit peu craquer. On se doute aussi qu'il y a un certain nombre de pressions qui doivent apparaître. Hein. En France, ça avait été le cas. Je vous rappelle aussi qu'en France, il y a eu des dossiers qui avaient disparu. Hein. Ça avait été toute une affaire. Oui, c'est toujours bizarre avec la scientologie, tout ce qui se passe.
A priori, ils ont des infiltrés un peu partout, quoi.
Bah, tu sais qu'en fait...
Un peu partout, peut-être pas un peu partout, mais en tout cas, ils en avaient dans certains tribunaux.
Ils ont un service de renseignement. C'est-à-dire qu'il y a une des filiales qui est un service de renseignement, comme chaque État peut en avoir un. C'est exactement le même principe. C'est très sérieux, hein, quand même, la scientologie. Hein. On a l'air d'en rigoler des fois, mais non, hein, c'est une organisation qui fait très, très peur, qui a des moyens de pression très importants, comme tu le dis, au niveau politique, partout dans notre société, mais qui a beaucoup d'argent, surtout. Et c'est surtout comme ça qu'ils avancent, hein, c'est grâce à leur pognon. Hein.
Ils avaient pu rentrer à l'Assemblée nationale pendant le débat sur le premier rapport, je crois, de la Mivilude, là, sur les sectes.
Ouais,
c'est un truc incroyable, quoi.
Enfin, donc, voilà, ce procès est difficile. Le président du tribunal a donné 2 semaines au procureur fédéral belge pour se rétablir, hein, pour se remettre. Donc, normalement, le réquisitoire doit avoir lieu le 24 novembre prochain. C'est quand même 8 heures, hein, ce réquisitoire. Alors, s'il peut pas venir, Christophe Caliment, il va être remplacé, évidemment. Il y a un substitut, sauf que... celui qui maîtrise tout ce dossier, ben c'est lui en fait. Hein. Alors c'est peut-être problématique d'avoir une connaissance qui est centralisée, mais en tout cas c'est le cas sur ce dossier. Évidemment la scientologie, ben ça leur fait très plaisir. Hein. On peut l'imaginer hein, de ne plus avoir en face cet ennemi qui était quand même très très combatif. Voilà, donc 2 semaines d'attente jusqu'au 24 novembre, c'est encore bien difficile aujourd'hui de se battre contre cette scientologie.
Allez, une petite info sur les complotistes. J'ai pas fait ça depuis quelques semaines. Ils nous font toujours autant rire, hein, ces complotistes, ou pleurer, parce que c'est quand même quelque part assez triste. On va parler de Russia Today. Alors, Russia Today, vous êtes pas tous au courant, je l'espère que vous regardez pas ça. Donc, c'est la chaîne de télévision internationale qui s'appelle RT maintenant, d'ailleurs, au lieu de Russia Today, mise en place par le Kremlin, donc par la Russie, pour faire de la propagande, et qui diffuse assez régulièrement les thèses complotistes, hein, à peu près toutes celles qui traînent, ils les récupèrent. Donc là, ça date du 13 octobre dernier. Ils ont diffusé un reportage sur la candidate Hillary Clinton pour la présidence des États-Unis d'Amérique, enfin déjà candidate pour son parti, pour être choisie par son parti, candidat démocrate. Donc le reportage s'appelait Obvi Illuminati. Donc le mot était un jeu de mots avec obvious, ça veut dire évident, et Illuminati, c'est cette fameuse théorie de secte conspirationniste qui dirigera le monde, là, qui bien évidemment n'existe pas. Hein. Donc la présentatrice de cette chaîne, qui s'appelle Laurie Arnfenist, affirme que Clinton est la candidate des Illuminati, et pour ça, ils ont trouvé une preuve, c'est qu'elle travaille avec une société qui s'appelle The Grand Work, c'est une start-up, hein, très exactement, et dans son logo, il y a un triangle avec un cercle, et ça, c'est le signe des Illuminati, et dès que vous avez un triangle avec un cercle quelque part, c'est foutu, vous êtes Illuminati. Voilà. En plus, elle va, comme d'habitude, plus loin avec les thèses conspirationnistes, cette Laurie Arfeniste, puisque elle y va jusqu'à faire son petit truc antisémite. Ah, vous vous rappelez les théories du complot, à la fin, c'est toujours la faute des Juifs, bizarrement, ou pas bizarrement, puisque c'est toujours, et enfin souvent, véhiculé par l'extrême droite, cette chaîne Russia Today véhicule les idées d'extrême droite de la Russie actuelle. Donc ils ont expliqué qu'en fait, cette société, la maison mère de cette société qui travaille avec Hillary Clinton, avait un nom hébreu, Timshel. Voilà, donc comme ils sont hébreux, c'est les Juifs qui financent, le nom est hébreu, et c'est donc une conspiration mondiale juive. Voilà, ça a fait un petit peu scandale, ils ont retiré la vidéo qu'ils avaient postée sur YouTube montrant ce reportage. Mais ça nous rappelle que la Russie, à travers cette chaîne et à travers d'autres choses, est porteuse des idées et des théories complotistes, en plus de véhiculer de fausses informations. Alors sur cette chaîne, ce texte Russia Today, on découvre, ils nous présentent chaque fois, ils oublient toujours de dire que Bachar el-Assad massacre des civils syriens, pourtant c'est 78% des morts, hein, Bachar el-Assad. C'est pareil sur le 11 septembre, ils ont la théorie que c'est un complot monté de l'intérieur, que les Rothschild, ah oui, encore un juif, seraient derrière la disparition du vol 370 de la Malaysia Airlines. Voilà, il y a plein de théories comme ça qui traînent sur ce site ou cette télé d'information qui est le bras armé des médias russes et de l'État russe. Voilà, à déconseiller bien évidemment.
Alors on va parler un peu médias et on va se pencher aujourd'hui sur le Figaro Magazine. Oui, je sais, je n'arrive pas à sortir de ma passion Figaro, promis, un jour j'y arriverai. Et alors bon, là je suis un peu aidée aussi par le Canard Enchaîné, il faut le dire. Alors le Figaro Magazine a trouvé un moyen simple de remplir ses colonnes, c'est vrai, faire la promotion de ses propres journalistes dans un joli publi-reportage illustré. Oui, c'est pratique, deux pierres d'un coup, hein, du blabla et du pognon, tout ça c'est bien pratique. Alors ça s'appelle « J'ai couru le marathon de New York », n'est-ce pas? C'est paru dans le numéro du 6 novembre, page 47, 11 pages, sur le récit de Guillaume Tabar, l'un des rédacteurs-chefs du Figaro, qui est parti courir le marathon de New York. 8 photos du journaliste, dont 2 doubles pages, que je me suis empressée d'aller lire cet article. Ah, il y a de la photo, c'est beau, il y a du texte. 11 pages, hein, quand même, tout de même. Alors, autopromotion, c'est déjà un petit peu critiquable. Mais, comme le rapporte le Canard Enchaîné, les 11 pages illustrées ont été financées par une marque de godasses. De chaussures de sport, précisément. Par Asics. Oui. Pourtant, moi, j'ai bien parcouru toutes ces pages et il n'y a aucune mention d'un quelconque partenariat hein, pendant ces 11 pages.
Et on voit les photos quand même des chaussures, du coup.
Ah bah oui, bien sûr, on les voit. Ouais. Alors, on les voit même très très bien. Je vais y revenir. Alors, Guillaume Tabar, qui est présenté comme éditorialiste politique au Figaro, lui, il assume hein, sa démarche. Il n'y a pas de souci. Il estime que il a traité son sujet de manière honnête et rigoureuse. Il y a aucun problème, ça c'est ce qu'il a répondu au Canard Enchaîné. À Buzzfeed, le site, il explique que oui, c'est qu'il y avait des contacts qui avaient été pris entre la marque et le journal avant le marathon, mais c'est un voyage de presse, pas un publi-reportage, explique-t-il. Et puis il n'était pas tout seul. Voilà, donc... Pour l'instant, il a toujours un peu excuse, hein. Il trouve une excuse à tout. Il n'était pas tout seul. Mais non, c'est pas un public reportage. Alors évidemment, on lui demande un peu et les chaussures. Alors il dit que c'est pas lui, hein, que c'est le photographe qui a eu l'idée de le prendre avec les chaussures, parce qu'il y a une photo assez remarquable. Je dois le dire quand même, c'est qu'évidemment, on voit Guillaume courir en tenue de sport, hein, évidemment, dans les rues de New York. On le voit s'étirer, on le voit aller retirer son petit numéro, mais on le voit aussi dans son hôtel avec au premier plan la paire de chaussures. Oui, elle est bien là, la paire de chaussures. De toute façon, elle est sur les autres photos, hein, la paire. Donc, il a pour l'instant un peu réponse à tout, c'est ce qu'on peut se dire. Mais, comme l'a fait remarquer le Canard Enchaîné, parfois, on a des médias qui critiquent le Canard Enchaîné, sauf que là, il y a des médias qui sont eux aussi allés vérifier. Et en l'occurrence, ces informations sont bien vraies. C'est qu'il y a une attachée de presse d'Asie qui est venue, effectivement, qui a pris contact avec le Figaro, mais qui est même venue dans les locaux s'assurer qu'il y aurait bien la marque qui serait cité dans l'article, hein, donc elle en avait eu la confirmation. Alors, le directeur du Figaro Magazine, Monsieur Roquette, reconnaît que la marque a financé les billets d'avion, les deux nuits d'hôtel, les frais sur place de ce marathonien et de son photographe. Et évidemment, la marque a offert, bien évidemment, la paire de chaussures que l'on voit bien visible. 140 euros, il paraît que ça coûte une telle paire de godasses. Alors, à côté de ces belles photos quand même qui mettent en valeur la godasse, il faut savoir que on en parle aussi dans l'article. L'air de rien. Oui, je vais vous en trouver une petite partie. Alors... Notre marathonien part dans un grand délire où, en fait, courir, il nous explique que c'est un truc solitaire. Oui, ok, jusque-là. Mais heureusement, on a ses chaussures. Les seules compagnes constantes du coureur sont cependant ses chaussures. Alors là, il part dans une poésie sur la paire de godasses. Alors au début, il dit, oh là là, la paire de chaussures. J'ai même rencontré des gens qui refusaient de jeter leur basket. Mais... Qui veut comprendre les marathoniens dans ses pompes et dans ses œuvres doit saisir ce lien particulier, nous explique-t-il. Hein, il insiste. Plus loin, celui, alors il parle du jour hein, important, hein, celui où on en a acheté sa première paire d'Asics. Tiens, ça y est, la Rolls des ouais. chaussures, nous explique-t-il.
Ah, ouais.
Ça y est, c'est nommé. Et ça va même plus loin puisqu'il nous dit que lui, Hein ? Il dit, à vous de jouer, dis-je intérieurement à mes Gel Cayano. Les Gel Cayano, c'est une paire de chaussures.
C'est le nom de la marque. Oui,
c'est un modèle de la marque. Donc c'est bien cité dans l'article, hein, y a pas de problème. Parce que bon, quasi que je lui paye son voyage, c'est déjà un petit critiquable. Mais il y a bien toutes les photos et c'est bien cité dans l'article. Alors effectivement, il n'était pas tout seul, comme il le dit. Hein, Libération, par exemple, cite Jessica Salter, journaliste au Télégraphe, hein, un journal anglais. D'ailleurs, ils étaient tous les deux sur la même photo, hein, avec leur paire de godasses Asics. Donc voilà, c'est pas nouveau tous ces trucs-là, hein, mais c'est vrai que bon, ça a fait un peu bondir, et ça a fait bondir la Société des journalistes du Figaro, évidemment un petit peu. Alors, ils expliquent. Dans un communiqué, les chaussures sont peut-être l'accessoire essentiel du coureur, mais pas celui du journaliste. Et, en l'espèce, le journaliste est réduit à une activité d'homme sandwich au profit d'une marque commerciale. Plus loin, un petit peu d'ironie, je vous préviens, attention. Hein. Il nous reste à souhaiter qu'Alexis Brézet, qui est le directeur de la rédaction du Figaro, n'aura pas de sa vigoureuse foulée l'été prochain l'essentiel du GR20. Que Paul-Henri Dulimbert, délégué, c'est le directeur délégué du journal, ne partira pas à l'assaut du Mont Ventoux au guidon de sa bicyclette. Ou qu'Anne-Florence Schmitt, qui est directrice de la rédaction du Figaro Madame, ne fera pas le tour de Noirmoutier en kayak de mer, sans quoi des numéros spéciaux sont à redouter. Bon, voilà, c'est pas la première fois, hein, que le Figaro leur fait ce genre de truc. Et puis, de toute façon, je voudrais pas avoir l'air d'être un petit peu pessimiste, chers amis. Mais enfin, c'est le parti pris du groupe Le Figaro, hein, enfin, de cette entité d'aller de plus en plus vers du publi-reportage, de s'associer avec des marques. Enfin voilà quoi, de remplir des colonnes. Alors, je vous renvoie d'ailleurs ce beau numéro du Figaro Magazine où on a une magnifique photo jaune et noire, les flics de l'ombre, 6 mois d'enquête au cœur du nouveau RC. Voilà, c'est magnifique. Dessous, vous avez spécial horlogerie. On passe de l'un au l'autre, c'est le Figaro Magazine.
Le Canu Info, Radio Canu.
Oh diable Dieu, oh diable Dieu. Oh diable Dieu, oh diable Dieu.
Alors nous reprenons cette petite rubrique au diable Dieu, tant que nous avons l'autorisation de le faire, ce qui risque de peut-être de disparaître un jour, vu les attaques contre celles et ceux qui luttent contre l'emprise religieuse. En tout cas, nous résistons pour l'instant encore et toujours. Donc, quelques petites infos autour des religions. Alors d'abord, une bonne nouvelle pour ceux qui ont des enfants et qui les élèvent dans l'absence de religion, puisqu'il y a une grosse étude qui a été publiée par Current Biology le 5 novembre dernier, donc la semaine dernière. D'après cette étude, les enfants non-croyants sont plus altruistes que les enfants croyants et élevés dans la religion. C'est assez surprenant, hein, puisque les religieux disent à peu près l'inverse tout le temps. Donc cette grosse étude a été faite dans 6 pays, donc le Canada, la Chine, la Jordanie, la Turquie, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Du coup, on a essentiellement donc les catholiques, les protestants et les musulmans qui sont étudiés dans cette étude. Pas les bouddhistes, ni les juifs, et puis ni les autres religions. Il y en a beaucoup sur Terre. Donc l'étude a porté sur 1170 enfants âgés de 5 à 12 ans. Donc d'abord, alors il y a eu plusieurs étapes dans l'étude. Dans l'étude, la première, ils ont demandé aux parents d'évaluer le niveau d'empathie et de sensibilité à la justice de leurs propres enfants. Et là, plus la famille est croyante, plus les parents pensent que leur enfant est généreux. C'est le discours véhiculé par les croyants et même les autres de dire que les gens religieux sont voilà plus ouverts aux autres, plus empathiques, etc. En ça, c'est la première étape. La deuxième, les chercheurs ont essayé de mesurer l'empathie réelle et la générosité des enfants. Donc ils ont fait plein de petites expériences. Par exemple, une expérience, les enfants regardaient des vidéos où d'autres enfants se disputaient, se poussaient, presque se bagarraient. Ils ont ensuite noté le niveau de méchanceté de ces actes, des actes qu'ils ont vus dans les vidéos, et les punitions que les enfants qui avaient commis ces actes méritaient. Et là, les enfants issus de familles pratiquant une religion se sont montrés beaucoup plus sévères, beaucoup plus intransigeants que ceux élevés dans une famille sans religion. Alors, ils ont aussi, il y a plein d'expériences, hein, il y a l'expérience du jeu du dictateur, hein, qui avait été imaginé par les économistes il y a de nombreuses années. Donc, ils ont proposé aux enfants de choisir 10 autocollants qu'ils prélèvent sur un total de 30 autocollants. Et ensuite, ils ont indiqué aux enfants qu'il n'y avait pas assez d'autocollants pour tout le monde. Donc, ils ont demandé aux enfants s'ils voulaient donner à un de leurs amis qui n'avait pas eu de chance et qui n'avait pas eu d'autocollants. Et là, les enfants issus de familles non religieuses ont été plus généreux que les enfants issus de familles croyantes. Donc voilà, il y a plein de comme ça d'expériences qui démontrent, d'après ces chercheurs, ça remet grosso modo en question le fait que, soi-disant, la religion serait vitale pour le développement moral et que ça appuie du coup l'idée que la sécularisation du discours moral ne va pas diminuer la bonté humaine. Bien au contraire, merci à ces chercheurs d'être arrivés à cette conclusion-là. C'était pas forcément leur but au départ, hein, puisque c'est des chercheurs, ils n'avaient pas une idée réelle du résultat. Mais voilà, les religions finalement sont des ennemis des rapports sociaux. Grosso modo, c'est la conclusion du rapport. Alors toujours en lien avec la religion, on va parler de Lubna Abidar. Alors Lubna Abidar, si vous avez vu le film Much Love, vous savez qui c'est, sinon vous savez pas forcément qui c'est. Donc c'est une actrice qui a joué dans ce film qui est interdit notamment au Maroc, c'est une Marocaine. Et ce film parle de la prostitution au Maroc. Un film que nous on n'a pas trouvé exceptionnel parce que malheureusement c'est assez léger, ça affleure à peine les vrais problèmes de la prostitution mais aussi de l'homosexualité, de plein d'autres choses. Hein, c'est un film qui laisse sa fin.
Le film choisit d'aborder une situation délicate, c'est comment au Maroc des femmes qui se prostituent vivent tout simplement au quotidien. Donc à la base c'est pas forcément un film sur les problèmes, sauf qu'effectivement la prostitution c'est... Je crois pas qu'il y ait un endroit au monde où ça soit simple, mais au Maroc, ça l'est certainement pas. Ouais. Mais c'est aussi un film sur la violence que ces femmes peuvent subir, mais aussi sur une certaine liberté qu'elles ont.
Oui.
Et qu'elles arrivent à obtenir aussi, parce que ce sont des femmes qui ont envie de se libérer, malgré certaines contraintes. Mais c'est juste qu'au niveau cinématographique, le film est un petit peu raté, le film est un peu bruyant. C'est plutôt sur sa forme cinématographique que ça nous a laissé un petit peu sur notre faim.
Parce que sur le fond, le film, ça part d'un...
Les actrices sont magnifiques, par exemple.
Et notamment Lubna Abidar, qui est très très bien dans ce film. Alors, elle a subi pas mal de pressions suite à la sortie du film et à son interdiction au Maroc. Des pressions essentiellement venues des milieux conservateurs et religieux, hein, pas des milieux... Alors, elle n'a pas eu de pression de milieux laïcs. Hein, le peu de laïcs qu'il y a au Maroc, ils ont bien évidemment plutôt soutenu le film. C'est bien le problème de la religion qui a entraîné ce qu'elle a pu subir, et notamment l'agression, puisqu'on a vu une vidéo publiée la semaine dernière où elle a la gueule abîmée par une agression a priori par trois hommes dans les rues de Casablanca. Donc elle a décidé de quitter le Maroc, elle est arrivée en France dimanche dernier, d'abord pour se faire soigner, après je sais pas si elle repartira. On lui souhaite, en tout cas, si elle repart, que ça se passe mieux là-bas. Elle rappelle quand même, pour la citer, elle dit « Au fond, on m'insulte parce que je suis une femme libre et il y a une partie de la population au Maroc que les femmes libres dérangent, que les homosexuels dérangent, que les désirs de changement dérangent. » Et effectivement, c'est un peu ça qu'elle a vécu. C'est juste pour rappeler un petit peu ce qui peut se passer, comment la religion est instrumentalisée, utilisée, et comment les pays très religieux finalement restent très intransigeants envers les gens qui veulent un peu plus de liberté, et notamment les femmes qui veulent un peu plus de liberté.
Ouais, alors elle s'est fait taper dessus, mais elle a eu beaucoup de messages d'insultes, messages de mort.
Oui, c'était
assez
odieux.
C'est très drôle parce que les gens la traitent de sale pute. Enfin,
alors que c'est qu'une actrice, hein.
Non, mais même, je veux dire, qu'on arrête avec les putes, mais laissez-les tranquilles une bonne fois pour toutes. Enfin, c'est quand même assez incroyable qu'on en soit encore avec des vulgarités de ce genre. Mais voilà, elle a subi une pression très forte. Elle a une pression morale sur la gueule, mais elle est pas toute seule, hein, les autres comédiennes aussi. Parce que dans le film aussi, ces femmes, elles baisent. Alors, elles baisent peut-être pour du pognon, mais n'empêche qu'elles baisent et qu'on voit leur corps et qu'elles sont à poil. Et ça dérange. Ça a pas plu aussi, hein. C'est ce qui, je pense, déplaît aussi beaucoup, c'est qu'une femme ça baise et qu'en plus elle peut aussi dans ce sac de prostitution être aussi un peu dominante dans certains moments, même si elle se fait taper dessus à d'autres. Voilà, c'est pas si simple, et c'est aussi là où le film est quand même un petit peu réussi, c'est qu'il arrive aussi à nous montrer ça.
Et puis l'homosexualité, il y a de masculine et féminine qui est abordée, certes un peu légèrement, mais on la voit, et ça aussi ça choque les conservateurs et les religieux au Maroc notamment. Alors, dans la série des liens, des choses qui sont faites en lien avec les idées religieuses et qui empêchent les pays d'évoluer, on va parler de l'Ukraine maintenant, parce qu'ils ont adopté aujourd'hui, enfin, et dans la douleur, un amendement au Code du travail qui vise aujourd'hui à interdire les discriminations envers les homosexuels. Donc c'est super, hein. Aujourd'hui, à partir de ce soir, on n'a plus le droit en Ukraine de dire, de ne pas embaucher quelqu'un parce qu'il est homo. Ou, voilà.
J'ai cru comprendre, ça n'avait pas été si simple.
Alors, ça a été très compliqué, ils ont fait plusieurs tentatives, hein, mais ils y sont arrivés, il y a eu plusieurs tentatives de vote, enfin bon, ça a été un peu un énorme bordel, il faut quand même le dire, un énorme merdier.
À la limite, hein, quelque chose pas toujours légal.
À la limite de la légalité.
J'ai
alors,
compris. Hein.
Pourquoi Poroshenko et les autres ont voulu faire passer cette loi qui libéralise, enfin qui presque protège un peu les homosexuels. Eh ben, c'est l'Europe leur a demandé, et en échange de ça, ils ont une libéralisation du régime des visas. Donc, ils vont pouvoir rentrer en Europe beaucoup plus facilement, les Ukrainiens. Donc, il y a un enjeu important dans le rapprochement avec l'Europe. Donc, ils ont tout fait pour faire ça. Mais ils sont tout de suite dédouanés. Et vous allez voir, le lien avec la religion va vite arriver. Puisque Poroshenko a dit, attendez, on a juste fait ça pour rentrer dans l'Europe. Les valeurs familiales, elles restent indestructibles. Alors quand on commence à parler de valeurs familiales, on sent, comme c'est en lien avec l'homosexualité, que les homosexuels ne peuvent pas avoir de famille. On sent qu'il y a cette idée homophobe derrière qui traîne. Et ensuite, le président du Parlement, Volodymyr Grossman, lui aussi a essayé de recadrer un petit peu ce qui s'était passé. Il dit, nous sommes pour le maintien des valeurs familiales. J'entends de fausses informations selon lesquelles il pourrait y avoir des mariages entre personnes du même sexe en Ukraine. Et là, mon Dieu, faites que cela n'arrive jamais. Nous ne soutiendrons jamais cela. Voilà. Le mon Dieu est arrivé et ensuite, effectivement, on recomprend tout ce qui s'est passé, cette négociation avec les députés pour qu'ils votent et la pression de l'Église, puisque c'est bien l'Église orthodoxe qui est en jeu. C'est cette Église orthodoxe homophobe, hein, qui fait pression sur la population, sur les élus, pour que il n'y ait pas de loi qui permette aux homosexuels de vivre un petit peu mieux en Ukraine. Donc voilà, c'est assez drôle, quelque part, même si c'est triste pour les homosexuels, de constater que finalement l'Ukraine qui a comme ennemi la Russie, qui cherche à se rapprocher de l'Europe, elle garde finalement cette même mentalité homophobe qu'il y a aujourd'hui en Russie, enfin qui a peut-être toujours eu en Russie, mais qui a très fortement aujourd'hui en Russie, dont une partie, c'est d'ailleurs c'est la même problématique, c'est aussi l'Église orthodoxe très forte en Russie qui véhicule ces idées homophobes à travers Poutine entre autres, mais à travers plein d'autres choses. Donc voilà, c'est une petite avancée en Ukraine, mais c'est quand même pas grand chose. Et puis, pour terminer dans ces infos autour des religions, un petit mot, juste un nouveau bilan sur l'athéisme dans le monde. Deux études ont été faites récemment. Une américaine qui dit que dans le monde, il y aurait 5,8 milliards de croyants. Donc, c'est détaillé, 2,2 milliards de chrétiens, 1,6 milliard de musulmans, 1 milliard d'hindouistes. Et il y aurait 1,1 milliard de non-croyants. Donc sur les 5,8 milliards de croyants, il y a 1,1 en plus de non-croyants, ça veut dire que les non-croyants restent minoritaires, ça représente à peu près 16% de la population mondiale d'après cette étude. Il y avait eu une autre étude de Wingallop International qui disait, lui, c'était 13% de la population mondiale. Mais ça nous rappelle les non-croyants sont quand même très agressés, notamment dans les pays fortement religieux, mais pas toujours dans les pays fortement religieux. On a pas mal d'infos qui viennent notamment d'Inde. Hein, il y a une journaliste qui avait fait des articles sur qui s'appelle Neha Dixit, qui avait expliqué comment c'était difficile en Inde d'avoir un mariage non religieux, un mariage laïque, qui avait même expliqué que dans certaines provinces indiennes, le simple fait de choisir son partenaire était puni de mort, parce que c'était la religion qui devait dire, puis en plus on ne doit pas se marier avec quelqu'un d'une religion différente. Bon, la montée des phénomènes athées dans certains pays arabes, notamment en Arabie Saoudite, inquiète beaucoup l'Arabie Saoudite, qui a lancé des appels au secours dans les médias, sur Facebook, sur plein de trucs pour dire attention, il y a des jeunes issus de l'Arabie Saoudite qui se détournent de l'islam. Notamment, ils avaient attaqué le groupe qui s'appelle Saoudi Athéiste, qui avait une page Facebook. Il y a eu pas mal de choses comme ça récemment qui rappellent que effectivement les athées, 13 ou 16% de la population mondiale, sont ceux qui souffrent le plus quand ils sont dans des pays où ils sont ultra minoritaires, puisqu'on rappelle que donc en Iran, en Inde, en Israël, au Qatar et dans plein d'autres pays, il est impossible d'assumer son athéisme. Il est souvent impossible d'avoir un mariage non religieux. Voilà, et que la lutte pour l'athéisme, le rationalisme et les différentes formes, il y a de moult formes qui vont de l'antithéisme, ceux qui détestent tout ce qui est en lien avec les religions, aux agnostiques, hein, qui ont une espèce de croyance un petit peu floue, ils souffrent un peu partout dans le monde, sauf dans quelques pays dans lesquels la sécularisation fonctionne pas mal, ce qui est le cas notamment d'une partie de l'Europe comme la France, même si les attaques contre les athées restent existantes en France, notamment par l'extrême droite.
Alors on va revenir sur cette grève dont je vous ai parlé, la grève des journalistes reporters d'Image de France 2. Ben, ça paye la grève.
Ils ont gagné ?
Ouais, enfin ils ont gagné. Ils ont avancé, écoute. C'est pas mal. Alors il y avait des choses, hein, je vous avais raconté, ils s'étaient mis en grève, 4 jours de grève, 90% de grévistes, c'est vachement bien. Et, ils ont donc fait paraître vendredi dernier, hein, je vous ai dit qu'ils se réunissaient jeudi dernier, j'avais pas les résultats. Finalement, vendredi, ils ont fait paraître un communiqué. Donc la grève a été levée. Ils estiment, ces journalistes, d'avoir le sentiment d'avoir été entendus. Hein. Ils ont le sentiment. Hein, c'est quand même pas non plus très franc, mais il y a quand même des avancées. Sur l'emploi, je vous avais dit que il y avait un gros problème d'emploi, c'est que déjà il y avait des gens qui n'avaient pas été reconduits, un certain nombre de CDD et de pigistes, beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de stress. Voilà. Alors la direction a proposé des embauches immédiates, plus que ce qu'elle proposait précédemment, donc c'est plutôt bien. On parle de 5 créations nettes de postes, donc c'est plutôt bien. Sur les amplitudes horaires aussi, il va y avoir quelques avancées. Alors, ce qui est quand même assez dingue, déjà la direction a reconnu qu'il y avait un problème. Hein, que, limite, parfois, c'était pas légal. Ce qui est absolument incroyable, tenez-vous bien, c'est que les journalistes reporters d'Image de France 2 vont avoir la possibilité de déclarer les horaires réels, un truc de fou. C'est-à-dire, comme ils l'écrivent dans le communiqué, le système informatique était souvent rétif à enregistrer ses dépassements. A priori, il va y avoir des avancées sur ça. C'est-à-dire que le système informatique ne devrait plus être réticent à prendre toutes ces informations, et en particulier ces heures sup. D'autres choses, par exemple, je vous avais dit aussi que ces grévistes souhaitaient que le chef de service ait un grade qui lui permette de pouvoir rester dans la chaîne de décision de leur travail, de l'information. Et donc ce chef de service va avoir le grade de rédacteur en chef adjoint, donc ils sont plutôt assez satisfaits, parce que ça leur permet de garder un pied, hein, quand même dans tout ça. De pas se faire mettre de côté sur les TV UPAC, hein, vous savez, c'est ces trucs qui permettent la transmission en 3G et en 4G. Alors là-dessus, il y a pas vraiment de consensus, mais les grévistes ont accepté de repousser prochainement cette discussion. Par contre, déjà dans leur communiqué, ils expliquent que si jamais il y a pas des décisions et des débats très rapidement, ça va reposer problème très très vite, parce que pour eux, il y a quand même un risque professionnel, il y a un risque sanitaire. Voilà, ils ont pas envie de mettre leur jeu en vie, hein, on les comprend. Voilà, donc il y a des choses qui vont bien, et puis moi, une des choses qui me permet, qui me semble, excusez-moi, là, assez important, c'était sur leur activité. Hein, quelle était la part de leur participation à la production des magazines. Ça, c'était une de grandes questions. Alors, a priori, on leur a assuré qu'au moins la moitié serait assurée par les journalistes reporters d'Image de France 2, mais ils aimeraient bien aller plus loin. Donc l'idée, c'est d'aller à 60 ou 70% de la production qui soit réalisée en interne. Alors, dans cette décision, je me dis qu'il y a quand même un truc qui a peut-être fait aussi pencher un petit peu du côté de ces grévistes. C'est que je vous rappelle que TF1 a officialisé lundi son entrée dans Newen à 70%. Newen, vous savez, c'est la boîte qui produit tout un tas de programmes.
Sur le service public.
Oui, pas que, sur le groupe M6 aussi, hein, y en a partout en fait. Donc évidemment, à France Télévisions, on flippe un peu, hein, parce que, en l'occurrence, il y a tout un tas de programmes vraiment très importants. Le plus connu, c'est Plus belle la vie, c'est celui qui fait causer, parce que c'est la grande réussite de France 3. Si France 3 perd ce truc, c'est une case horaire qui s'écroule entièrement. Le contrat pour cette série doit être renégocié en 2016, donc là-dessus, il y a quand même des discussions. Maintenant, on est sur la fiction. Mais c'est vrai que il faut pas oublier... que Newen, c'est Kappa, par exemple. Kappa, je suis sûre que c'est un nom que vous avez entendu. Ils ont fait beaucoup de reportages pour Canal+, pour France 2, et pour quelle émission ? Pour Envoyé spécial, par exemple. Donc, finalement, c'est pas une mauvaise chose hein, que ça arrive en plein au milieu, parce que peut-être que ça va pouvoir leur permettre de travailler, de mieux travailler, de plus travailler. Donc finalement, hein, le capitalisme, ça peut avoir du bon, mais c'est vrai que c'est quand même très curieux ce rachat de TF1 c'est pas curieux hein, dans leur développement économique, puisque l'idée c'est d'avoir une nouvelle économie qui soit plus liée forcément à la chaîne. C'est-à-dire que TF1, c'est une chose, hein, mais je vous rappelle que déjà le groupe TF1, ça fait bien longtemps que c'est bien plus que cette chaîne, mais c'est même de sortir les activités des chaînes. C'est-à-dire que le but, c'est de produire des choses qui soient plus liées forcément au groupe. Donc acheter, enfin rentrer en tout cas au capital de cette holding, c'est pas rien. Moi j'ai un petit peu regardé, par exemple ils produisent plein de trucs pour Arte. Donc ça veut dire que TF1 demain va pouvoir produire toute la télévision, sauf évidemment ce qui nous vient des États-Unis d'Amérique, hein, ce qui est quand même extrêmement important sur les chaînes de télé si vous regardez les programmes. Mais ça veut dire que TF1 va donc pouvoir produire France 2, France 3, M6, et puis vous dévalez comme ça, hein, vous appuyez sur les boutons et puis vous faites tout le tour. Ça va être très très sympa la télé de demain. Mais en tout cas voilà, tout ça pour vous dire que ben, la grève ça paye.
La révolution passera par le vélo, camarades. Ah, la bicyclette.
Radio Cani, la rebelle.
Alors on va parler un petit peu de vélo et d'environnement maintenant dans le Canyon Info. On va revenir, je l'avais déjà faite une fois cette info, mais il y a eu un nouveau rapport qui conclut exactement la même chose que le précédent que j'avais fait il y a peut-être 6 mois. C'est autour du casque et du vélo. Du casque qui est censé protéger les utilisateurs de vélo. Alors on sait qu'il y a des lois qui obligent de plus en plus hein, le port du casque à vélo parce qu'il y aurait trop d'accidents à vélo. Donc c'est une nouvelle étude universitaire qui s'est déroulée au Canada cette fois, qui a donc comparé les taux d'hospitalisation des cyclistes dans les 10 provinces et les 3 territoires canadiens, notamment des blessures à la tête, mais aussi des blessures sur le reste du corps. Et il faut savoir qu'il y a des provinces dans lesquelles le port du casque est obligatoire et d'autres dans lesquelles le port du casque n'est pas obligatoire. Et ils comparent donc tout ça. Et ils se sont rendus compte que là où le port du casque est 2 fois plus répandu, là où c'est obligatoire, il y a le même taux d'hospitalisation pour les cyclistes accidentés. Et quand ils vont plus loin, qu'ils regardent les blessures à la tête ou des choses comme ça, eh ben ils se sont rendu compte que pour la grande majorité, 87% des blessures à vélo surviennent dans des parties du corps qui sont tout le corps sauf la tête. Et donc il reste que 13% des blessures à la tête et que même le port du casque n'a pas d'incidence sur les blessures à la tête statistiquement sur les accidents. Alors 3690 cyclistes accidentés ont été étudiés dans cette étude qui s'est déroulée entre 2006 et 2011 pour les chiffres qu'ils ont récupérés des hôpitaux canadiens. Donc voilà, ça démontre une fois de plus que le casque c'est pas la solution. Alors après, ils essayent de comprendre, du coup, comme ils ont été surpris quand même par les résultats, ils s'attendaient pas. Pourquoi qu'est-ce qui fait que on a un accident ou pas, et qu'est-ce qui fait que l'accident est moins dangereux ou pas? Alors eux, ils disent que le plus important finalement, d'après leur étude, c'est le comportement. Et effectivement, ils se sont rendus compte, par exemple, que il y avait un déséquilibre de sexe dans les accidentés. Alors, il y a déjà, bon, on va pas rentrer sur le déséquilibre de sexe sur l'utilisation du vélo, mais en rapport, il y a un déséquilibre, il y a beaucoup plus d'hommes accidentés en proportion que de femmes accidentées faisant du vélo. Et donc ils étudient, ils posent des questions aux accidentés. Effectivement, les femmes sont plus globalement à vélo plus prudentes, qu'elles portent un casque ou non, ça change rien d'ailleurs. elles roulent moins vite, elles empruntent plus de pistes cyclables et elles prennent des rues plus tranquilles. Ça se passe au Canada, je ne sais pas si ça marche dans tous les pays, mais au Canada, voilà d'après eux pourquoi les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt marrant d'apprendre ça sur ce facteur-là. Alors dans les autres facteurs, en dehors du sexe, ils disent pour eux le facteur déterminant, c'est la sécurisation des routes et des pistes cyclables. Et grosso modo, ils disent la qualité des infrastructures. Quand les infrastructures sont de qualité, il y a beaucoup moins d'accidents. Point. Quand il n'y a pas de piste cyclable, les risques sont plus importants. D'ailleurs, ils ont repris l'étude de 2008 des chercheurs américains qui avaient comparé le nombre de blessures et de décès de cyclistes aux États-Unis et dans trois pays d'Europe où la pratique du vélo est très répandue. C'était Danemark, Pays-Bas et Allemagne. Et là, ils s'étaient rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup moins de blessures et d'accidents dans les trois pays européens que aux États-Unis. Et bizarrement, dans ces trois pays européens, il n'y a pas de casque, quasiment, jamais. Les cyclistes ne mettent pas ce casque. Alors que aux États-Unis, ils sont incités à mettre le casque. Et effectivement, c'est simplement d'après eux, il y a deux facteurs qui jouent. Il y a les infrastructures et l'effet de masse, comme ils disent, puisqu'effectivement, comme il y a beaucoup de vélos dans ces pays-là, les automobilistes ont appris à faire attention aux vélos et il y a eu une espèce d'amélioration de la sécurité qui s'est développée. Alors, finalement, cette étude, elle est très utilisée par les aficionados du développement du vélo, notamment au Québec, parce que ils vont pouvoir lutter scientifiquement contre les idées qui sont en cours, notamment au Québec, d'imposer le casque aux cyclistes. Alors pourquoi ces gens qui défendent le vélo sont contre le casque ? Eh ben pour une raison simple. Toutes les études ont montré que quand on oblige les cyclistes à mettre un casque, ça diminue le nombre de cyclistes mécaniquement. Parce que celui qui prend un vélo, emprunte un vélo, notamment les vélos en libre-service, et ben sans le casque, il n'emprunte pas, du coup il ne prend pas le vélo, du coup il y a moins de vélos. C'est un vrai frein au développement du vélo comme moyen de transport. Voilà. Je vous rappelle que j'en avais parlé, il y a une étude qui a démontré qu'il y avait plus de risques d'avoir un problème à la tête dans un accident en voiture qu'à vélo. Donc il valait mieux mettre un casque dans la voiture, mais pas un casque de vélo parce qu'il protège très mal, il fallait un casque de moto dans les voitures. Peut-être que ça sera la prochaine recommandation par la sécurité routière, allez savoir. Donc voilà, n'ayez pas mauvaise conscience si vous mettez pas de casque à vélo. Par contre, utilisez les bonnes infrastructures et le gilet jaune, il y a une autre étude qui a démontré que ça faisait 70% d'accidents en moins. La visualisation, grosso modo, ou une grosse lampe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gilet jaune. Vous avez une grosse lampe devant, une grosse lampe derrière, un truc qui fait 500 watts, là, ça marche. Par contre, ça se trouve pas, mais bon, vous pouvez essayer d'être illuminé quand vous roulez à vélo.
Alors, moi, avec tout ça, j'ai plutôt une question, c'est à qui ça profite tout ça? Parce que si on prend un truc comme Decathlon, par exemple, j'aimerais savoir combien de casques ils vendent dans le mois. Ça doit bien les enrichir, quand même, tout ça. Parce que, par exemple, on voit quand même...
Le principal marché, il est sur les enfants pour l'instant du casque, ouais. Parce qu'on a toujours peur, je sais pas, dans cette société sécuritaire, que les enfants tombent à vélo.
Oui, mais surtout qu'il y a des enfants qui ne sortent jamais des bacs à sable, donc en courant, on pourrait aussi leur mettre des casques, parce que je pense qu'on peut se faire mal aussi. Donc c'est vrai que c'est aussi un truc économique. Mais écoute, vous savez quoi ? Je reviendrai avec des informations sur le secteur du casque à vélo, parce que je pense qu'il y a des gens qui se font un petit peu du profit dans l'histoire. Alors, moi, je vais vous parler maintenant d'Evgeny Vitichko.
Qui c'est donc ?
Evgeny ? Oh, mais si !
C'est un écolo.
Un écolo, la quarantaine.
Il n'a pas de chance, il est russe.
Ouais, il fait partie de l'ONG Veille écologique pour le Caucase du Nord. Vous avez peut-être entendu parler de Evgeny. Il a fait partie des militants très actifs et très remontés contre les JO de Sochi. Ils se sont battus pour protéger leur région des batailles environnementales. Ils ont beaucoup subi, hein, il faut dire, ces militants et ces militantes. Ça n'a pas été simple, ça l'est jamais, hein, vous allez me dire. En Russie, alors il avait été d'abord arrêté pour des dégradations, et puis arrêté une deuxième fois. Le tribunal avait confirmé sa condamnation en février 2014, une condamnation qu'il avait déjà subie en 2013, et il avait été condamné à 3 ans de colonie pénitentiaire. Le camp, quoi.
Hein, le camp.
C'est pas drôle d'être militant écolo en Russie quand même.
Hein. Ah non, mais c'est un peu comme en Chine. Je crois que ça fait partie des pays et en Amérique du Sud aussi où c'est pas bon d'être écolo. Il faut quand même être extrêmement courageux.
Alors,
et courageux.
En Amérique du Sud, des fois ils sont assassinés.
Ouais, mais en Chine aussi. La bonne nouvelle, c'est que mardi, un tribunal de Kirsanovsky, excusez-moi pour la prononciation, c'est dans le sud de la Russie, hein, comme tout, comme Sotchi, a ordonné sa libération. Donc sa libération va avoir lieu le 20 novembre prochain. C'est un soulagement pour tout le monde, hein, pour son ONG, pour sa famille, mais pour toutes les ONG qu'il soutenait depuis le départ. Faut dire que il a eu droit évidemment à un procès équitable dans une belle démocratie. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est la méthode russe. La méthode russe, c'est je te mets en prison et je te remets en prison. Et puis je te remets en prison. Mais après, il y a une méthode russe, mais qui est pratiquée dans plein d'endroits. C'est-à-dire, je te mets en prison, comme ça tu viens pas m'emmerder pendant mon activité. Donc là, il l'avait mis en prison pour qu'il fasse pas chier pendant Sotchi. Hein, vous suivez, c'était simple. Donc à chaque fois, ils ont trouvé un moyen de lui en coller encore un peu plus, au cas où les 3 ans de colonie pénitentiaire du départ, c'était pas clair. Donc, il a subi tout un tas de trucs en étant emprisonné. Donc, par exemple, il rapportait que un jour, il a prêté une fringue à un de ses co-détenus qui avait froid. Il a eu des sanctions pour ça. Un jour, il s'est assis sur son lit, alors qu'a priori, il y a des horaires pour s'asseoir sur son lit. Oui, je ne savais pas, mais dans les camps pénitentiaires en Russie, il y a des horaires très précis qu'il faut respecter pour s'asseoir sur son lit, et il s'était assis en dehors de ses horaires, donc il avait été aussi puni. Enfin, tout un tas de choses comme ça, hein, qu'il a subi pendant sa détention. Maintenant, ce qui serait bien, maintenant qu'il est, qu'il va être libéré, ce serait que toutes les charges qui sont contre lui, bah, soient abandonnées. Ça serait bien, parce que ça, c'est la suite. Hein. Il suffit pas d'être dans la rue, il suffit aussi d'être libre vraiment face à cette justice, parce que sinon, elle va lui remettre la main dessus assez rapidement, il faut le dire. Voilà, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Evgeny, il est dehors, c'est plutôt une bonne chose.
Eh bien, très bien, on va terminer ce Kenu Info sur cette information-là. Nous allons faire un petit agenda, et puis voilà. Alors, le petit agenda, ça va être essentiellement... alors, j'avais noté 2 choses. Peut-être pas. Comme la semaine dernière, le novembre libertaire 2015 continue, donc plein de choses organisées par des libertaires ce mois de novembre. Alors, demain, c'est le spectacle qui s'appelle « Je mange, donc je suis ». C'est à la boulangerie du Prado, 69 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, ça commence à 19h. Samedi, c'est juste à côté de la radio, 4 impasse Flessel, à 15h30, une nouvelle visite par Papy des lieux, des affiches de sérigraphie et de leur lieu de création. Ça devrait passer d'ailleurs devant Radio Canu, par Papy Art. Donc, ça coûte 2 euros d'adhésion pour l'assurance au lavoir. Et après, c'est un prix libre, la visite. Donc, c'est demain, samedi, à 15h30, au lavoir public 4, impasse Flessel. Samedi soir, il y a une projection du film « Je lutte, donc je suis ». Ça sera à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe. C'est à 20h. Et puis après, il y a un débat. Sinon, plus loin, c'est mardi prochain, on sera le 17 novembre, il y a la projection du film La fête est finie de Nicolas Burlot. C'est très exactement à la salle des Rancis, donc 249 rue Vendôme, prix libre. C'est à partir de 19h, donc mardi prochain. Et je vais continuer avec 2 choses. Le mercredi 18, la semaine prochaine, Climat et capitalisme vert, c'est une conférence de Philippe Pelletier, qu'on avait vu au salon, qui est intéressant, hein, qu'on avait vu au salon de l'année dernière, salon du livre libertaire. Donc il est mercredi à la librairie La Griffe à 19h, ce sera 5 rue Sébastien Griffe, il y aura une collation qui suivra cette conférence et ce débat qui va bien évidemment suivre tout ça. Et puis après, il y aura d'autres choses, puisque ça se termine fin novembre, on en parlera la semaine prochaine. Et puis, comme il reste 1 minute 30, moi je voulais reparler de la campagne de don de soutien à la plus rebelle des radios, puisque Radio Canu va bientôt acheter son local. S'il nous reste un mois et 10 jours très exactement avant l'achat du local. Il nous manque encore quelques centaines d'euros, pas grand chose, mais un petit peu. Donc s'il vous reste un petit peu d'argent, c'est le moment ou jamais de nous aider en envoyant vos dons soit à notre adresse par chèque, hein, c'est Radio Canu, boîte postale 11 01 69 201 Lyon, CEDEX 01. Sinon, en faisant un virement directement, vous avez toutes les infos sur le site de Radio Canu, radiocanu.org, à la rubrique Soutenez Radio Canu. Et voilà, on va pouvoir finaliser tout ça et on vous donnera la bonne nouvelle début janvier, puisqu'on va le faire fin décembre et après il y aura peut-être un petit peu de Noël et le jour de l'an. Donc voilà, on vous dira tout ça, mais là c'est finalisé, hein, maintenant. Il reste plus que quelques petites étapes dans les 6 semaines qui viennent.
Ouais, alors moi je voudrais interpeller le gars, la meuf, le pélo, la nana qui a acheté lundi à New York lors d'une vente aux enchères de Christie's Nu couché de Modigliani. Parce que toi qui nous écoutes sûrement, tu as forcément du pognon. Puisque cette toile, tu l'as payée plus de 170 millions de dollars, ça fait plus de 158 millions d'euros. Donc toi qui m'écoutes, tu as forcément un petit chèque à nous faire, c'est forcé, surtout qu'il paraît que ça s'est fait en quelques minutes. Donc tu as quelques minutes pour me faire un chèque et je t'applaudirai comme la salle de vente t'a applaudi. Il paraît que c'était magnifique. Je ne sais pas qui tu es, mais 170 millions de dollars, ça prouve que il y a du pognon quelque part sur cette planète. Comme
voilà, vraisemblablement moins dans les auditeurs et les auditrices de Radio Canu, en tout cas qui nous ont déjà bien soutenus. On rappelle qu'on a eu, on a passé la barre des 33 000 euros, si ma mémoire est bonne, de dons. Donc voilà, on espère encore avoir votre soutien. On vous souhaite de passer une agréable soirée sur la plus rebelle des radios.
170 millions, 170 millions. Il y a un gars où il y a une meuf qui a 170 millions, ouais.
Si, s'il leur reste 40 000 euros pour donner à Radio Canu, je suis preneur. Hein, on est preneur d'ailleurs.
Même 100 euros, fais-nous un petit chèque. Voilà. Il y en a du pognon quand même. Ouais. Hein. C'est pas nous qui l'avons.
Non.
Allez, on vous laisse.
La semaine prochaine, rendez-vous pour le prochain Canu Info du jeudi.
Ciao, ciao.
Bye, bye.